Pieds sur terre, Sonia Kronlund.
De l'avis de certains, l'héritage serait dans les sociétés capitalistes la principale source d'inégalité entre les citoyens. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Demandait déjà le Figaro de Beaumarchais. Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Heureusement, poursuivent ces radicaux, les impôts sont aujourd'hui là pour établir un semblant d'égalité entre les citoyens héritiers et les sans-famille riches, en taxant les successions de manière significative. Cette supposée injustice n'a pas échappé à Marlène Engelhorn. Elle est autrichienne et appartient à la famille du géant de la chimie BASF. Vers l'âge de 20 ans, elle a découvert qu'elle allait hériter directement de sa grand-mère, dont la fortune se compte en milliards. Or, en Autriche, il n'existe pas d'impôt sur la succession. Et Marlène a trouvé ça profondément injuste de percevoir de l'argent sans avoir à fournir aucun travail. Alors, au moment du décès de sa grand-mère, alors que 25 millions d'euros quand même lui revenaient finalement sans impôt, Marlène Engelhorn s'est employée à redistribuer elle-même la quasi-totalité de son héritage. Elle a organisé un conseil de redistribution qui a choisi sans elle des citoyens et citoyennes autrichiens susceptibles d'utiliser sa fortune pour promouvoir des projets bénéfiques à la société. Marlène Engelhorn est également devenue militante fiscale et elle a créé le groupe Tax Me Now avec des millionnaires comme elle qui demandent à être taxés davantage. Tout de suite dans les pieds sur terre, voici deux autres histoires de succession et d'héritage tout aussi étonnantes, mais dans un autre genre, par Stéphanie Thomas.
Je m'appelle Damien Gérard, j'ai 52 ans et j'exerce depuis 25 ans une profession insolite qui est le métier de généalogiste successoral. Alors un généalogiste successoral, c'est quoi ? C'est une personne qui a vocation à aller rechercher les héritiers d'un défunt lorsque cette personne est décédée sans testament et sans famille connue. Alors, je suis rentré dans ce métier un peu par hasard, j'y suis resté par passion. Je suis resté 4 ans dans le notariat. Initialement, je voulais être commissaire de police. La recherche m'intéressait, l'enquête. J'ai fait du droit des affaires et puis après du notariat pour finalement retrouver une profession d'enquête qui est le métier de généalogiste. Je connais un notaire parisien qui s'appelle Maître Ambroise Chartier, qui est un notaire dans le 7e arrondissement. Un jour, il m'appelle pour me demander un renseignement. Une femme vient de décéder en Suisse, c'est Nelly Kaplan, et lui doit s'occuper de la succession en France, puisqu'elle avait son domicile sur l'avenue des Champs-Élysées, au 34 avenue des Champs-Élysées, un très bel appartement au 6e étage. Il me dit que c'est une personne connue, je découvre que c'est une cinéaste de renom, une écrivaine aussi, et une femme qui a traversé toute la moitié du XXe siècle au devant de la scène. Elle a travaillé avec Picasso, avec Dali, elle a été la compagne d'André Breton, elle a travaillé avec Abel Gance, qui est un grand du cinéma, et elle a terminé sa vie avec Claude Makowski, qui est également réalisateur de cinéma. La première chose que me dit le notaire, c'est que lui, pour pouvoir avancer dans le dossier, il va falloir retrouver ses héritiers. Il me dit c'est une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Mais comme tout bon généalogiste, je suis quelqu'un de suspicieux, donc je vais d'abord rechercher si elle n'a pas eu d'enfant. Alors pour savoir si elle n'a pas eu d'enfant, il faut que j'aille regarder là où elle a vécu. Et je vois que depuis 1953, date à laquelle elle est arrivée en France, elle a toujours vécu à Paris. Donc concrètement, je suis allé dans les 20 arrondissements de Paris pour aller voir s'il y avait des actes de naissance où il y avait une filiation avec Nelly Kaplan. Et très vite, j'ai pu conclure que Nelly Kaplan n'avait pas eu de descendance, pas de postérité. Ça voulait dire quoi ? C'est qu'il fallait passer au rang ultérieur et vérifier si elle avait des frères et sœurs et des neveux et nièces, qui est le deuxième ordre des héritiers prévu au Code civil. Difficulté pour moi, Nelly Kaplan n'est pas originaire de France. C'est une femme qui vient d'Argentine. À 22 ans, cette femme qui est éprise de liberté se dit « Je vais aller en France, qui est le pays de la culture, le pays des arts ». Et elle part avec sa petite valise sur un paquebot. Elle arrive en France. Donc, pour l'Argentine, je prends contact avec un avocat avec qui j'ai déjà travaillé et qui va faire des recherches. Et là, que découvre-t-il ? Que Nelly Kaplan a eu un frère qui s'appelait Marco. Il est né en Argentine, puis il est parti en Bolivie, puis au Mexique. Donc, il va falloir que je recherche en Bolivie, au Mexique, s'il a eu de la descendance. Après un peu de travail, pas mal de vérifications, je m'aperçois que Marco a eu deux filles, Luciana et Maria. Donc, ces deux filles seront les héritières de Nelly. Encore faut-il que je les retrouve physiquement pour les rencontrer et leur annoncer qu'elles vont toucher la succession de leur tante. Tante qu'elles n'ont jamais connue, puisqu'il y a une rupture complète après le départ de Nelly Kaplan d'Argentine entre sa famille et elle-même, puisqu'elle n'est jamais allée les voir et eux, a priori, ne se sont jamais déplacés. Je localise Luciana au Mexique et Maria aux États-Unis. Alors, Luciana fait comme sa tante, sans le savoir. Elle est réalisatrice de documentaires. Et Maria, elle travaille dans le nucléaire aux États-Unis. Donc, ce sont ses deux nièces. Et je pars au Mexique pour rencontrer Luciana. Alors, c'est une énorme surprise pour elle, parce qu'elle ne s'attendait pas du tout. Elle n'avait jamais songé qu'un jour, elle hériterait de sa tante. Alors, elle savait que sa tante était quelqu'un de connu. Son papa lui en avait parlé. Et j'apprends notamment que s'il y a une rupture complète, c'est que lorsque sa maman est décédée, elle ne s'est pas déplacée à ses obsèques. Et ça, c'est quelque chose qui ne lui a jamais été pardonné. Donc il y a vraiment une rupture. On ne voulait plus entendre parler de la tante Nelly. Maria, je prends également contact avec elle. Et les deux me confient le soin de les représenter dans leur règlement de la succession. Ambroise Chartier, lorsqu'il m'a convoqué, m'explique qu'il n'y a pas de testament au fichier des notaires. Par contre, il lui a été remis à une sorte de jeu de piste qui avait été écrit par la défunte pour retrouver sa lingotière. Elle avait prévu pour ses successeurs un petit jeu qui allait permettre de retrouver plusieurs coffres qui étaient dissimulés dans son appartement, un jeu pour retrouver les clés ou les codes, et c'était aux héritiers d'aller se lancer dans l'aventure pour découvrir ce trésor. Donc elle décède en 2020, je me souviens que c'est 2020, début 2021, l'inventaire. Alors, c'est un dossier qui commence au 34 avenue des Champs-Élysées. Alors pour moi, l'avenue des Champs-Élysées, ça évoque tout de suite ce jeu de Monopoly auquel je jouais quand j'étais jeune. C'est la case bleue, on est dans les appartements les plus riches de Paris, les plus chers, et c'est la première fois que je me rends dans un appartement sur cette avenue prestigieuse qui est connue mondialement. Un rendez-vous est fixé avec Maître Chartier et un commissaire-priseur pour aller chercher les coffres et découvrir ce qu'il y a dedans. Donc, j'arrive dans l'appartement, et là, je suis comme un enfant, parce que, à peine la porte de l'appartement qui s'est ouverte, je découvre la caverne d'Ali Baba. Sur tous les murs, il y a plein de tableaux, il y a des œuvres d'art partout, des livres qui s'entassent dans chaque pièce, et dès qu'on ouvre un livre, il y a une dédicace qui est prestigieuse de quelqu'un de connu. On voit vraiment que Nelly Kaplan a traversé la moitié du XXe siècle au milieu d'artistes, d'intellectuels, de personnes très connues. On ouvre un tiroir et on avait un scénario qui avait été signé par Marguerite Yourcenar. On a retrouvé les lunettes de Dali, je crois, enfin des choses improbables. Elle avait une collection de bijoux qui avait été faite par Picasso. Une collection de bijoux d'une façon générale qui était exceptionnelle, notamment une panthère Cartier sertie de diamants. Je vois dans le regard des commissaires-priseurs qui sont les sachants, eux savent ce qui vaut de l'argent, et je les vois émerveillés. Donc c'est très excitant, et on commence notre jeu. Où sont cachés les coffres ? C'est un très grand appartement, il fait plus de 300 mètres carrés. On visualise les pièces par rapport à la description qui est fixée dans ce jeu de pistes. Elle parle de la chambre du lion ou du bureau de la panthère. Et à l'entrée de son bureau, il y avait une grande panthère qui était dessinée. Et pour la chambre du lion, c'est de la même façon. Il y avait un gros lion qui était sur le bureau. On a compris que c'était le bureau de son mari, de Claude Makowski. Alors, ce jeu, c'était pas simplement la découverte du coffre, c'était également trouver les clés, parce que les clés étaient cachées dans des endroits insoupçonnés, qui étaient expliqués sur le jeu de piste. Par exemple, elle a vu une armoire où elle avait des bobines de film. Alors, il y avait, peut-être 200, 300 bobines de film, et une clé était cachée dans ces bobines de film. Donc, on s'est amusé pendant une heure, on était à 5 à ouvrir les bobines, jusqu'à un moment, on a trouvé une boîte qui était vide, avec une clé dedans, et c'était la clé d'un coffre. Mais une fois qu'on était dans la pièce, le coffre n'était pas apparent. Il fallait le rechercher. Et là, il y avait toute une description pour pouvoir accéder au coffre. Alors, par exemple, dans son bureau, on nous demandait d'aller sur l'étagère qui était en face du bureau, d'enlever un certain nombre de livres sur le rayonnage de la bibliothèque, au deuxième et troisième étage. Et là, on nous disait qu'un coffre était caché derrière le mur. Donc, on accédait comme ça au coffre en cherchant, parce qu'on ne trouvait pas du premier coup. On a enlevé beaucoup de livres, on a soulevé beaucoup de kilos d'ouvrages pour pouvoir découvrir les coffres. Et on a même un coffre que, dans un premier temps, on a pensé ne plus exister, le quatrième coffre. Et à la fin de la journée, il y a le collaborateur de l'étude qui s'est adossé à une bibliothèque. Et là, on a entendu un claque mécanique. Tout le monde l'a entendu dans la pièce. On s'est retourné et on a vu que le bord de la bibliothèque, qui était contre le mur, s'était avancé de 5 cm. On a tiré sur le côté de la bibliothèque et là est apparu dans le mur un trou avec une caissette, des lingots et des pièces d'or dedans. Au fur et à mesure qu'on avançait à l'ouverture des coffres, il y avait des lingots et des pièces d'or. Tout ça, c'était extrêmement excitant, avec une petite angoisse qui m'accompagnait tout au long de la journée. Angoisse qui était liée au fait que j'avais rencontré Luciana et Maria, héritières de Nelly. Mais si je découvrais dans un coffre un testament, elles n'étaient plus de la fête, elles étaient évincées de la succession. Bon, ma rémunération aussi liée au fait que les héritiers à qui je vais révéler la succession touchent effectivement le patrimoine, donc si elles ne touchaient rien, je n'étais pas rémunéré. Le généalogiste ne sera payé que si l'héritier retrouvé touche effectivement son héritage. Et puis, plus on avançait, premier coffre, deuxième coffre, troisième coffre, pas de testament. Et là, je me dis, c'est pour elle, il reste un quatrième coffre. Le quatrième coffre, c'est un coffre qui a posé plus de difficultés parce que dans ce jeu qu'on a mené, on avait découvert le coffre, donc dans la chambre du lion, mais on n'avait pas trouvé la clé. Donc on a été obligé de faire appel à quelqu'un qui est venu pour ouvrir par la force le coffre. Donc il arrive avec une scie. Ça dure quand même 10 heures l'opération, parce qu'on n'arrive pas à venir à bout de ce coffre qui est particulièrement résistant. Et on finit par l'ouvrir. Et là, moi j'ai mon petit cœur qui bat très vite parce que j'aperçois une liasse de papier, je me dis c'est foutu. Et puis finalement, il y avait effectivement un testament, mais un testament qui était caduque, puisqu'il avait été annulé par la suite par un autre testament qui avait été fait au profit du mari de Nelly Kaplan. Mais comme le mari de Nelly Kaplan était décédé, le testament était caduque. Donc c'était la famille par le sang, Luciana et Maria, qui devaient hériter et qui ont effectivement hérité. Il y avait beaucoup d'œuvres d'art, donc beaucoup de tableaux. Il y en avait sur tous les murs, il n'y avait plus de place sur les murs. Nelly Kaplan était l'ami, la muse d'André Breton, hein, qui est quand même la référence du surréalisme en France. En ce qui concerne le mobilier, on est autour du million d'euros. C'était une succession à 8 chiffres. Finalement, au fur et à mesure, c'est une personne qui apparaît. Parce que des objets, ce sont finalement le résumé d'une vie, d'une sensibilité, et c'est presque un cœur qui bat que l'on entend dans cette maison au travers de tous les objets qu'elle a laissés. C'est toute sa vie, les moments forts, les gens qu'elle a rencontrés, donc c'est très très touchant. J'ai voyagé dans la vie d'une personne. C'est une femme qui avait en plus plusieurs propriétés. On allait dans le sud de la France, à Bagneux, je suis allé à Lille-Dieu, je suis allé à Genève. À Genève, on a découvert un tableau de Gustave Moreau. Gustave Moreau, c'est un peintre de la fin du 19e. Et ce tableau qui était qualité musée, on l'a soumis à l'expertise, c'est l'usage en la matière. Et là, on a découvert qu'on avait une pièce exceptionnelle qui a été vendue plus tard à Drouot. Il avait été estimé à 200, 250 000 euros et je crois qu'il a fait plus de 400 000 euros. Première question qu'on se pose, mais pourquoi cette thésaurisation? Parce que c'est assez atypique, c'est-à-dire que même des gens très riches aujourd'hui vont avoir des lignes sur un compte bancaire, mais pas autant d'or. Et je crois que j'ai trouvé la réponse. C'est que c'est des gens, que ce soit Nelly ou Claude, donc le couple, ils ont connu à un moment de leur vie une situation difficile matériellement, et peut-être que cette situation difficile a eu un écho tout au long de leur vie. Alors, en ce qui concerne Claude, il a été à l'assistance publique, je crois, 10 ans. Et Nelly, elle est arrivée à 22 ans à Paris, sans un sou, et il a fallu aller à la conquête de la vie pour trouver un emploi, pour gagner sa vie, puisqu'elle est partie sans économie. Il faut savoir aussi que, en ce qui concerne Nelly, sa famille a connu les pogroms en Biélorussie. Donc, ils sont partis, pareil, dans des situations difficiles pour l'Argentine. Donc, c'était ses grands-parents. Mais peut-être que dans la famille, ces moments ont compliqué et qu'il y avait un besoin pour se sécuriser d'avoir de l'argent chez soi. Une autre question qui m'est apparue, c'est d'où venait cette fortune ? Parce que j'ai vu que Claude Makowski et Nelly Kaplan avaient fait tous les deux des films, mais n'ont pas fait non plus beaucoup de films. Ils ont vendu des livres, mais ils n'ont pas eu tant de lecteurs que ça. Et je pense que j'ai trouvé réponse à cette question. C'est que Claude Makowski, donc le mari de Nelly, a une maman qui a été la muse de Derain, le peintre Derain. Et quand le peintre est décédé, je sais qu'elle a gardé des dessins, peut-être des esquisses, des petits tableaux, qui ont été vendus après. Et je pense que cette fortune a été constituée en vendant ses œuvres, parce que Derain était un peintre qui a eu une cote qui a été très importante après. Ça s'est terminé, finalement, par une sorte d'hommage qui a été rendu dans la vente aux enchères qui a été organisée autour de Nelly Kaplan, une vente dédiée à Drouot. Drouot, c'est la plus belle salle des ventes de France. Hein. À la fois, c'était une fête et de la tristesse. Alors, une fête, pourquoi ? Parce que, finalement, ça venait clôturer un très beau dossier. J'avais retrouvé les héritiers. Luciana était venue du Mexique pour assister à cette vente. Donc, c'était festif. Et en même temps, au fond de moi, et je pense que pour l'héritière, c'était la même chose, il y avait une tristesse parce que on allait dilapider une vie qui avait été extrêmement riche au travers de tous les souvenirs qui incarnaient la richesse de cette vie. C'est-à-dire que tous ces objets qui avaient été accumulés, ça correspondait à des périodes de vie, ça correspondait à des rencontres. Et là, ce sont des collectionneurs qui se sont appropriés tous ces objets mobiliers. Mais je trouvais ça un peu triste de voir tout s'éclater parce que j'ai l'impression que on éclatait une vie. Moi, je suis missionné pour aller transmettre un patrimoine. Officiellement, c'est ma seule vocation. Mais finalement, ce n'est pas ce qui est de plus important. Dans certaines situations, on va dire plus intimistes, quand ça concerne des gens proches, des parents, des frères et sœurs, on se rend compte que l'histoire familiale prend le dessus sur le patrimoine. Finalement, toucher de l'argent, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est souvent triste, c'est que je me rends compte que chez les héritiers que je découvre, quand il y a eu un éloignement, une séparation, il y a toujours au fond d'eux cette idée qu'un jour on va se réconcilier, qu'on va se retrouver. Mais c'est une question d'ego, parce que de part et d'autre, personne ne fait le premier pas, alors ça reste comme ça, puis on met ça plus tard. Et moi, quand je viens frapper à une porte pour dire qu'une personne est décédée, c'est trop tard, c'est fini, on ne peut plus faire ce premier pas. Donc c'est ce que je dis toujours aux gens que je rencontre, qui sont dans une situation de famille qui est compliquée, c'est n'hésitez pas à faire le premier pas, vous ne le regretterez pas.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Vincent, j'ai 56 ans, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Ma mère était originaire de Paris, née pendant la guerre et ensuite top modèle dans les années 60-70. Et mon père était originaire du Liban, avait émigré en Belgique à l'âge de 8 ans et avait grandi ensuite en Belgique. Mon grand-père voulait se lancer dans le diamant. Il est resté à Anvers et a créé une société diamantaire. Il a créé cette société en ayant une idée d'avant-garde. C'est qu'au fur et à mesure que ses enfants pouvaient travailler dans l'affaire, il les a dispatchés dans le monde entier. C'était la mondialisation avant l'heure, au milieu des années 60. Et ensuite, il est décédé très très jeune. Il avait 5 enfants. Et les 3 aînés ont travaillé dans cette affaire avec un certain talent. Le frère aîné, il avait le talent de pouvoir gérer les finances. Le deuxième frère était extrêmement talentueux dans tout ce qui était approvisionnement. Et le troisième, qui était mon père, était extrêmement talentueux en commercialisation, en vente. Et il y avait beaucoup de demandes. Le fait qu'ils étaient implantés dans le monde entier a permis d'avoir un approvisionnement rapide. Et la société est devenue très importante. Alors, je n'ai pas connu mes deux oncles aînés jusqu'à l'âge de 17 ans. Eux étaient en Belgique, nous on était entre l'Allemagne et Paris. J'avais des oncles inconnus, ça arrive dans toutes les familles. Et j'ai finalement rencontré mes oncles à la fin de mon adolescence, au début des années 80, grâce à l'insistance d'autres personnes de ma famille pour essayer d'unir tout le monde. À partir de là, les rapports étaient assez agréables, même si il y avait des stigmates de cette décennie où finalement il n'y avait pas eu de lien. Tout est resté en non-dit, toujours très courtois, toujours très agréable, mais sans aucune profondeur. Je rêvais de travailler dans ce domaine, puisque j'ai grandi aussi avec mon père. Depuis enfant, j'allais dans ce bureau. Donc je le suivais, je voyais des clients, j'avais vu plein de négociations passionnantes. C'était drôle, je trouvais ça amusant et folklorique. Et donc après le service militaire, j'ai travaillé dans la société familiale. Donc j'étais en Allemagne pendant quelques années, où j'ai vraiment commencé dans les petits boulots pour ensuite monter au fur et à mesure. Ensuite, j'ai ouvert l'antenne en Italie. Et ensuite, j'allais très régulièrement aussi aux États-Unis. Tout ça, quand même, sous la coupe de l'activité de mon père et en ayant assez peu de contact au début avec le reste de la famille. Tant que mon père était vivant, ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite, mon père est tombé malade très jeune. Mon père a eu un cancer à l'âge de 45 ans. Donc, ça a été un peu plus compliqué au niveau de l'activité pour lui, pour travailler, même s'il était toujours très impliqué. Et là, je sais qu'il y a des cousins qui sont venus expliquer aux salariés en Italie qu'il fallait peut-être me lâcher pour venir avec eux parce que sans mon père, je serais beaucoup moins influent ou des choses comme ça. Donc là, j'ai senti que le vent tournait un petit peu. Et mon père est décédé à 48 ans. Alors, comme c'était un groupe où il y avait des sociétés dans le monde entier, il avait quand même déposé un testament chez le notaire, mais aussi un testament à la Bourse Diamantaire. Et j'ai continué à travailler dans la société familiale jusqu'à ce que je demande des comptes. Un an et demi après le décès, j'ai insisté pour avoir des comptes. Je voulais connaître la valorisation et savoir comment on était dans la société, à quel titre. Et là, c'est le point bloquant. Impossible d'avoir des comptes. On me disait toujours que tout irait très bien. Là, j'ai eu un papier griffonné avec un chiffre qui correspondait à peu près à un tiers de la valeur des parts de mon père, sans compter la valeur de la société. C'était pas expliqué. C'était juste un chiffre griffonné. Et j'expliquais que ce chiffre correspondait à aucune réalité. Ils m'ont dit, mais c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est à prendre ou à laisser. Et là, j'ai quand même été voir un avocat par acquis de conscience. Il m'a dit que c'était assez grave, mais qu'il voulait tout de suite faire mettre des scellés partout, faire des très agressifs. Donc j'ai refusé cette méthode. Puis j'ai vu une deuxième femme avocate qui m'a conseillé de plutôt de trouver plus de documents, d'essayer d'avoir un dossier un peu plus solide. Et j'allais des fois le soir au bureau et un jour je suis tombé sur un document qui était une cession de parts de mon père à ses frères, où mon père cédait l'intégralité de ses parts à ses frères avec une signature, donc tout était en ordre avec et l'expert comptable avait enregistré. Moi, j'ai photocopié ce document un peu abasourdi. Et en reprenant le calendrier, j'ai constaté que le jour de la cession de parts et le jour où la signature de mon père était imitée, en fait, mon père était à 6000 km de là en train de se faire opérer à New York pendant 12 heures. Donc là, j'ai contacté le président de la bourse pour lui demander s'il avait le testament que mon père lui avait laissé. Il m'a demandé de venir à son bureau et il m'explique d'un air aggravé que le testament a disparu et qu'il ne s'explique pas comment ça se fait et qu'il ne l'a plus. Et je vois que sur son bureau, le téléphone est mal raccroché. Donc je suppose que c'était... Il travaillait déjà avec mes oncles dans le business, donc il avait dû laisser le téléphone pour que les autres écoutent de l'autre côté. Donc j'ai compris que c'était un traître et que cette piste n'avait plus aucune valeur. Donc j'étais extrêmement affaibli. On avait peu de recours. Donc l'avocate m'a encore accompagné jusqu'à ce qu'en fait on sorte du bois et j'explique à mes oncles que maintenant j'avais des preuves quand même très graves contre eux, qu'ils avaient fait un faux usage de faux. Donc on s'est retrouvé un week-end de tension absolue et on a négocié dans un hôtel dans la nuit d'un dimanche à un lundi où ils étaient prêts eux à s'enfuir et où j'aurais pu tout perdre. Et finalement on a fait un accord bien mauvais mais j'étais très jeune. C'était il y a 25 ans. Voilà, c'est l'histoire d'une succession qui tourne mal. On n'a plus de contact du tout. On aura finalement touché peut-être à peu près la moitié de ce que mon père avait, sans compter la valeur aussi de la société, qui était aussi une très grosse société qu'il générait et dont il avait énormément participé. Il l'avait même sauvé au moment de du crash des années 80. Donc là, il n'y a plus de famille, il n'y a plus jamais eu de contact. Plus jamais. Le monde du diamant était passionnant. C'est un monde qui est joli, c'est un monde où il y a plein de cultures qui sont ensemble. Le monde du diamant est mon métier de cœur, ça me manque toujours. Mais ces gens ne me manquent pas. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans au quotidien quand même avec ces gens. J'ai été proche d'eux, on a fait plein de choses ensemble. Je les ai vus avec mon père, je les ai vus s'engager à faire des promesses. Je les ai vus... Ma mère était particulièrement angoissée, donc sur son lit de mort, 2 jours avant de mourir, elle a demandé à mes oncles de venir pour leur parler, pour leur demander. Ils se sont engagés à plein de choses. Le plus jeune frère de mon père, avec qui il était très proche, que je connaissais depuis enfant, m'a complètement lâché. Donc c'est une trahison générale. Même quand j'ai voulu retravailler dans ce domaine, ils ont été voir absolument tous les gens que je voyais pour essayer de faire pression, comme ils étaient beaucoup plus puissants. Je me suis retrouvé un peu réduit à pas pouvoir travailler convenablement. Donc j'étais le corps étranger qu'on a exclu bien gentiment, et ça s'est fait naturellement. Et finalement, comme ils étaient assez puissants, finalement tout le monde a trouvé son compte en se disant « c'est pas grave, on oublie ». Je sais qu'avec l'argent de mon père, ils ont été assez généreux, donc ils ont fait un don religieux à son nom. Ils ont fait un petit peu de bonnes œuvres pour se donner bonne conscience et pour dire qu'ils adoraient leur frère. Mais ils ont juste massacré ses enfants, sa mémoire et ses volontés.
I seek are far too discreet for me.
C'était Succession, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Éric Lancien et Émilie Valla. Merci à Damien, à Gérard, à Romain Lecordier, à Vincent et à la fameuse Jeanne Piffaut. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue, Sébastien.
Discover the answers to why, to look for a meaning inside of this dreaming I have. And words that I've said are spinning round, waltzing alone inside my head. Nothing will change, it's always the same.